Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, ça ne vous a pas échappé, nous sommes vendredi et vous connaissez le principe de l'émission le vendredi, eh bien c'est la libre antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont interpellé ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine, et les sujets ne manquent pas évidemment comme chaque semaine. Je jette un coup d'œil sur mon petit écran, il y a des réactions évidemment sur l'épidémie Ebola et surtout des témoignages. Le bilan du président malien un an après sa prestation de serment suscite également quelques commentaires, des réactions sur le cas Bourgi au Sénégal. Bourgi, c'est le co-accusé dans le procès de Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais. Quelques réactions, elles sont peu nombreuses, mais on va essayer d'en prendre au moins une tout à l'heure concernant la sortie du livre en France de Valérie Trierweiler. La presse en a beaucoup parlé. Le livre de l'ex-compagne de François Hollande. Tous les sujets nous intéressent, vous le voyez, donc n'hésitez pas, vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70, où que vous soyez à travers le monde, appelez-nous, RFI vous donne la parole et vous lancez le débat en direct sur notre antenne. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction d'RFI, nos journalistes, nos envoyés spéciaux, nos correspondants et nos experts ici au sein des studios de RFI. Vos questions et surtout n'attendez pas le début de cette émission pour nous contacter, sachez qu'on a besoin de préparer en amont cette première partie, donc vous pouvez nous contacter tout au long de la journée. Le standard reste forcément ouvert. Une première question concernant la République démocratique du Congo et ce décès qui a provoqué une très vive émotion sur place, voire même une onde de choc, hein, surtout dans la province du Nord Kivu. Bonjour Jonathan.
Oui, Juan, je vous dis bonjour et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Kinshasa et vous avez des questions concernant le général Bauma.
Ouais, Juan, il y a une semaine mourait le général de la 8e région militaire de notre pays, la RDC. Je cite le général Bauma. Alors, il y a des rumeurs qui laissent entendre que le monsieur serait victime d'un empoisonnement. Alors, j'ai des petites préoccupations par rapport à sa mort. D'abord, j'aimerais savoir si cette thèse peut-elle être avérée, ou si quelles seraient les conséquences directes de cette mort par rapport au processus de désarmement des ADF Nalu. Tout en sachant que c'est lui, le monsieur, qui était le maître à jouer dans ce processus.
C'est vrai que le général Bauma était considéré comme un héros de la guerre contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Léa Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Jonathan.
Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous êtes notre correspondante permanente. Alors effectivement, ce général est décédé samedi dernier, officiellement des suites d'un accident vasculaire cérébral. Mais comme le disait Jonathan, il y a effectivement un certain nombre de rumeurs qui circulent. On parle d'empoisonnement. Que savez-vous et que peut-on dire à Jonathan et à ceux qui nous écoutent ?
Ce qu'on peut dire pour le moment, hein, c'est que aucun élément factuel ne permet de dire, hein, pour le moment, que ces suppositions d'empoisonnement ou d'assassinat sont crédibles. En fait, le diagnostic des médecins en Afrique du Sud est sans équivoque. Il s'agit, selon eux, d'un accident vasco-cérébral, donc pas d'empoisonnement. A priori, il n'y a pas eu d'autopsie de fait. Je dis a priori, car je n'ai pas pu avoir la confirmation, hein, côté sud-africain, mais côté congolais, c'est sûr, l'autopsie n'a pas été demandé car le diagnostic est clair, me dit-on.
Ouais, pourtant, en République démocratique du Congo, les suspicions d'assassinat restent tenaces, Léa Lisa.
Et oui, c'est bien le problème, hein. Bien sûr, vu l'aspect fulgurant de sa mort qui a beaucoup choqué ici, hein, et sachant aussi que son proche collaborateur Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala, a lui été assassiné 8 mois auparavant, que la date de sa mort correspond également à l'anniversaire de la bataille de la reprise de Goma. Bref, tout cela fait penser à une loi des séries, mais je le répète, aucun élément factuel ne permet de dire que c'est vraiment le cas, mais ce qui est sûr, c'est que les partis d'opposition, mais aussi de nombreuses voix dans la société civile, demandent l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente. Les autorités répondent qu'une enquête est ouverte seulement à la demande de la famille du défunt ou du procureur militaire, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, elles sont formelles, il s'agit bien d'un accident. A priori, pas d'enquête pour le moment.
Alors, Jonathan nous demandait quelles pouvaient être maintenant les conséquences après sa mort dans la lutte contre les rebelles ougandais. C'est vrai que ce général était un fin tacticien, c'est une perte. L'armée congolaise perd l'un de ses meilleurs éléments.
Oui, ça c'est sûr que pour l'armée congolaise, c'est vraiment un coup dur. Le général Lucien Bauma était un vrai patriote, convaincu de l'importance de ses offensives contre les groupes rebelles, mais aussi, vous le disiez, un bon tacticien et surtout un très bon meneur d'hommes. Il était systématiquement sur le terrain avec ses troupes, ce qui est une qualité rare en République démocratique du Congo, où il y a finalement assez peu d'officiers de carrière aujourd'hui avec une vraie formation militaire et où il y a eu par le passé très souvent, notamment dans l'est du Congo, des problèmes de trahison au sein même de l'armée. Enfin, de plus, l'offensive contre cette rébellion implantée en RDC depuis des années, depuis la fin des années 90, est particulièrement compliquée à mener. Les éléments restants des ADF se cachent dans la forêt, ils sont infiltrés parmi la population. C'est donc très difficile d'entrevoir véritablement la fin de cette opération, Juan.
Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'armée a réagi très rapidement en nommant, je crois, dès le lendemain, un successeur.
Oui, dès lundi, au lendemain de la mort du général, un nouveau chef de l'armée du Nord Kivu, le général Lambé, a été nommé. Alors, il est moins connu, c'est sûr, mais son avantage, c'est qu'a priori, il connaît un peu ce terrain dans le nord-est du Congo, car il a mené une offensive contre un autre groupe rebelle ougandais, les LRA, dans le nord. Oui. Mais au final, Jonathan, c'est vraiment sur le terrain qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines à quel point les ADF vont tirer avantage ou non de la disparition du général Bauma. C'est difficile de dire avec certitude dans l'immédiat.
Ouais. Voilà, Jonathan, pour les explications de notre correspondante permanente à Kinshasa, Léa-Lisa Vesterhoff. Signalons que le général Bauma sera enterré aujourd'hui à Kinshasa lors d'une cérémonie publique à l'état-major des armées. Vous souhaitez réagir au décès du général Bauma? Nous en parlerons évidemment, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans la libre antenne. 33 9 693 693 70. Stéphane, bonjour.
Bonjour Juan. Bonjour le monde.
Bonjour le monde qui nous écoute évidemment sur Internet, sur la FM, sur le câble et sur les téléphones portables. Vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à vous connecter, j'y arrive, mettons les syllabes dans l'ordre. Stéphane, vous avez des questions concernant le Tchad et concernant surtout le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré.
Oui, tout à fait Juan. En effet, j'ai entendu sur la RFI que le tribunal chargé du procès Hissène Habré a déclaré y recevoir la demande de l'État tchadien de se constituer partie civile. Mmh. Alors j'ai deux questions à cet effet. Qu'est-ce qui justifie le rejet de cette demande par le tribunal?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question, qui est un peu compliquée, mais vous allez voir, Karine Franck va tout nous expliquer. Karine Franck, notre correspondante permanente à Dakar. Bonjour Karine.
Oui, bonjour Juan, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors, Hissène Habré, inculpé, rappelons-le, pour crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de torture lorsqu'il était au pouvoir dans les années 80. Il faut rappeler, Karine, qu'en juin dernier, donc il y a quelques mois, l'État tchadien avait déposé une demande de constitution de partie civile au motif que le pays, je cite, avait été victime de pillages économiques perpétrés par l'ancien président. Et finalement, eh bien, on a appris que cet appel a été jugé irrecevable par le tribunal spécial qui se trouve au Sénégal. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé, Karine. Pour quelle raison?
Alors, la chambre d'accusation du tribunal spécial a pris cette décision pour deux raisons. D'abord parce que le pillage constitutif de crimes de guerre ne peut être exécuté que par un ennemi en territoire occupé. Le reste n'est que détournement de fonds et là, on n'est pas dans le crime de guerre. Deuxième raison, le crime de pillage n'est pas visé dans le réquisitoire introductif, dans l'inculpation. Les autorités tchadiennes ne pouvaient donc pas étendre les poursuites à des infractions qui ne sont pas envisagées par le ministère public, qui est le seul à avoir le pouvoir de déclencher l'action publique. Cette décision a été saluée par les avocats des victimes qui craignaient un mélange des genres. L'État tchadien fait partie de ceux qui financent la procédure. Si N'Djamena avait pu se porter partie civile, cela aurait discrédité le procès, selon elle, et aurait ajouté de la polémique à la polémique. Plus grave, le Tchad aurait eu accès au dossier, et quand on sait qu'il y a beaucoup de responsables de l'ancien régime qui occupent des positions dans celui d'Idriss Déby, on imagine les dangers encourus par certaines victimes.
Effectivement. Karine, Stéphane avait une seconde question. Je lui ai coupé un peu brusquement la parole. Stéphane, votre seconde question ?
Oui, voir que le Tchad ne sera pas présent, quelles conséquences cela engendrerait dans le procès ?
Alors, quelles conséquences peut avoir l'absence du Tchad dans ce procès Idriss Déby ?
Ce procès Hissène Habré. Alors, a priori, il ne devrait pas y avoir de conséquences, mais certaines sources se disent néanmoins inquiètes. Elles redoutent que le Tchad ne revienne sur sa promesse de transférer à Dakar les complices présumés de Hissène Habré. Il s'agit de Younous Saleh, qui fut le premier directeur de la police politique, la DDS, et Mahamat Djibrine, présenté comme l'un des tortionnaires les plus redoutés. Tous les deux sont incarcérés au Tchad, et le Tchad doit les livrer aux chambres africaines extraordinaires. Mais à la grande surprise des avocats des victimes, N'Djamena semble traîner des pieds, même si les autorités tchadiennes s'en défendent. Alors avec ce nouvel épisode, des défenseurs des droits de l'homme redoutent un recul du Tchad, ce qui pourrait avoir comme conséquence de retarder l'ouverture du procès ou du moins de compliquer les choses.
Merci beaucoup Karine Franck en direct de Dakar où on nous écoute sur les 92 FM. Stéphane, bonne journée. Merci de nous avoir appelé du Bénin. 33 9 693 693 70, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons nous intéresser maintenant à la Centrafrique. Vous le savez certainement, dans 10 jours maintenant, dans 10 jours exactement, hein, jour pour jour, le 15 septembre, se déploiera la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Léger, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bangui, vous êtes dans la capitale centrafricaine et vous avez justement des questions concernant cette nouvelle force.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Je voulais savoir, parce que, comme vous avez dit, dans 10 jours, la force des Nations Unies pour le Centrafrique MINUSCA va s'installer en RCA, va se déployer en RCA. Je voulais savoir, est-ce que ce déploiement marque la fin de la mission de MISCA et Sangaris. Et aussi, je voulais savoir si cette force de l'ONU, a-t-elle vraiment les moyens d'apaiser les violences qui sévissent dans le pays. Parce que nous savons que ces derniers temps, la semaine passée, même cette semaine, il y a eu des violences dans le pays.
Ouais. La MINUSCA, attendue effectivement par les Centrafricains, à terme, la MINUSCA, ce sera 12 000 soldats, On va essayer d'y voir plus clair avec Thierry Vircoulon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, vous êtes le directeur Afrique centrale de l'ONG International Crisis Group. Concrètement, la MINUSCA, ce sera quoi ?
La MINUSCA, ça devrait être 12 000 hommes, comme vous le disiez. En fait, 65% de cet effectif sera disponible le 15 septembre, quand le transfert de responsabilité va se faire entre la mission de l'Union africaine et la mission des Nations unies.
Ça signifie que sur le terrain, la mission de l'Union africaine n'existera plus ?
Alors voilà, pour répondre à la question de Léger, la MINUSCA va remplacer la MISCA, donc les troupes de l'Union africaine vont être incorporées dans la mission des Nations Unies, sauf les troupes de la Guinée équatoriale.
D'accord.
Et il ne restera, en fait, l'Union africaine ne va maintenir qu'une mission politique à Bangui et non plus une mission de maintien de la paix.
Et quel avenir pour Sangaris, pour les 2000 soldats français présents sur le terrain ?
Par contre, Sangaris va rester, même si il y a certaines velléités de départ qui se font sentir au ministère de la Défense à Paris. Il est prévu pour le moment que Sangaris reste au moins jusqu'à la montée en puissance complète de la force des Nations Unies.
Ouais. Alors c'est la énième mission de l'ONU qui va se déployer en Centrafrique. Il y a eu la MISAB, la BONUCA, la FOMUC, la MICOPAX. Maintenant il y aura donc la MINUSCA. Concrètement, sera-t-elle en mesure et aura-t-elle les moyens de faire face à la violence et aux affrontements qui se déroulent encore aujourd'hui?
Cette mission va monter en puissance lentement. Il y a des problèmes assez importants pour recruter les contingents nécessaires et arriver à l'effectif de 12 000 hommes. Cette mission va aussi avoir des problèmes de mobilité parce qu'il n'y a pas de voie de communication en Centrafrique, donc elle a besoin de moyens aériens assez conséquents. Et là aussi, les Nations Unies peinent à les trouver. Et puis, cette mission va débuter dans un contexte qui est très dégradé, puisque l'accord de cessation des hostilités qui avait été signé à Brazzaville en juillet n'est absolument pas respecté par les parties sur le terrain. Et l'accord, les Nations Unies comptent sur un processus politique lancé à Brazzaville aussi, mais qui est pour le moment assez moribond.
Ouais.
Donc, le contexte n'est pas très bon.
Effectivement. Thierry Vircoulon, une dernière question sur la Centrafrique avec nous. Mokhtar, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous nous appelez du Tchad, on vous écoute.
Oui, je vous appelle depuis la capitale du Tchad. Depuis quelques jours, enfin nous avons déjà le gouvernement centrafricain formé par le Premier ministre Mamad Kamoun est déjà formé. J'ai quelques questions à cet effet.
Allez-y.
La CELECA a exclu ce ministre de gouvernement qui la représentait. Je veux savoir pourquoi.
Alors, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Que se passe-t-il, Thierry Vircoulon? On a donc un nouveau gouvernement qui est contesté par l'ex-rébellion, la CELECA. Pourtant, dans ce gouvernement, il y avait trois ministres issus de ce mouvement, de cette ancienne rébellion.
Oui, mais je crois qu'il faut rappeler d'une part que la CELECA est loin d'être un mouvement unitaire, c'est une coalition, c'est sans doute encore une coalition de différents groupes qui n'ont jamais parlé d'une même voix. D'autre part, les trois ministres qui étaient déjà là étaient en quelque sorte des lots de consolation après l'éjection du pouvoir de la CELECA en janvier. Et ce n'étaient pas des commandants militaires de la CELECA, mais des civils que Djotodia avait nommés comme ministres et qui ont été gardés par Samba Panza. Donc ils n'ont jamais été vraiment reconnus par les commandants militaires qui sont en fait le cœur de la CELECA.
C'est-à-dire que la CELECA n'a jamais reconnu les trois ministres estampillés CELECA comme étant membres de l'ancienne rébellion, c'est ça ?
Comme étant, je dirais plutôt comme étant dignes de les représenter.
D'accord.
Réellement.
Donc ils ont été exclus pour haute trahison.
Alors oui, et également a été exclu le nouveau qui a été coopté il y a quelques semaines, Mahamat Yacoub, qui était un proche de Dafan et qui lui aussi a été exclu de la CELECA. Donc on voit bien qu'il y a un processus de radicalisation de la CELECA et que pour le moment, ni Michel Djotodia ni Noureddin Adam n'ont vraiment mis les pieds dans le processus politique.
Je me fais vite le porte-parole de Mokhtar qui voulait savoir également quelle place peut occuper maintenant la CELECA dans le processus de transition, si elle s'exclut elle-même, on va dire, du gouvernement.
En quelque sorte, je crois que la CELECA ne veut pas qu'on lui impose les termes d'un processus politique. Elle veut imposer ses propres termes pour ce processus politique. Donc elle est contre les manœuvres de cooptation menées par le gouvernement de Samba Panza. Il est difficile de dire si elle va ou non participer aux discussions qui sont prévues jusqu'au mois de novembre. Mais par contre, il est clair qu'elle souhaite conserver le contrôle d'une bonne partie du pays.
Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été en direct avec nous, directeur Afrique centrale d'International Crisis Group. Et puisque nous parlons de la Centrafrique, sachez que dimanche, le débat africain d'Anna Foka sera justement consacré à ce pays et cette question, une question qui gouverne aujourd'hui la Centrafrique et pourra-t-on organiser des élections théoriquement prévues en février prochain. De nombreux invités, notamment une porte-parole de la présidence, le président de l'autorité nationale des élections ou encore le deuxième vice-président de la Séléka. Restez avec nous dans un instant le journal, un point complet avec la rédaction et on se retrouve dans 10 minutes pour la libre antenne 33 9 693 693 70.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.